Chapitre 2. Plus d'un mois s'était passé, on était au dernier jour de décembre. Depuis quelque temps, Samuel travaillait sans relâche. Les opérations de la fin d'année étaient importantes dans la maison Bonington et compagnie, mais ce n'était pas trop du concours actif de tous les commis pour franchir ce redoutable 31 décembre, qui sur toutes les places est un épouvantail pour le commerce. Toutefois, la maison Bonington n'en était pas à redouter un pareil moment. Son crédit aurait pu rivaliser avec celui de la Banque d'Angleterre, mais le patron avait parlé à Samuel d'une liquidation possible, et ce dernier tenait sans doute à livrer régulièrement ses comptes. Samuel paraissait encore plus sombre qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Soit que ses préoccupations de comptable influassent sur son esprit, soit que sa vie eût été récemment troublée par un chagrin réel, on ne le voyait plus que de loin en loin dans les salons de M. Bonington, et il se renfermait plus que jamais dans un isolement complet. À la vérité, Samuel tenait peu de place dans la vie de ceux qu'il connaissait, et deux personnes seulement avaient dû s'apercevoir de ce changement, M. Gustav Brough et Miss Lucy Bonington. M. Gusbloff était obstiné. Au milieu des recherches statistiques auxquelles il se livrait, cette individualité taciturne et froide l'avait frappé malgré lui. Il s'était senti pris du violent désir d'étudier de plus près cette nature à demi sauvage, et il ne se passait pas de jour qu'il ne vînt, sous un prétexte quelconque, rôder autour de Lombard Street. Quant à Lucie, ce qu'elle éprouvait est difficile à expliquer. Elle aimait Samuel avec tout l'abandon d'un cœur naïf, et elle souffrait dans cet amour confiant et pur, en songeant que Samuel était malheureux et qu'elle ne pouvait rien pour le consoler et le distraire. La pauvre enfant avait bien pâli depuis un mois, et la voir ainsi rêveuse et triste, on l'eût prise pour une vaporeuse vignette de la mélancolie. Cependant, les amours de Miss Ophelia et du Major Turner marchaient bon train. Le Major avait, disait-on, officiellement fait la demande en mariage. M. Bonington l'avait favorablement accueilli. Et à partir de ce moment, l'engagement était, pour ainsi dire, devenu public. On était donc au 31 décembre de l'année 1838. À cette époque, le lecteur se le rappelle peut-être, il se manifesta sur presque toutes les places de l'Europe une crise qui a laissé de tous côtés des traces profondes et occasionné de cruels désastres. Toutes les maisons de banque, tous les comptoirs d'escompte, toutes les institutions de finance avaient de bonne heure resserré leurs crédits et une certaine perturbation s'en était suivie dans les opérations commerciales, de telle sorte que, longtemps à l'avance, on considérait la liquidation de la fin d'année comme une des plus inquiétantes que l'on eût eu à prévoir. À Londres, la préoccupation générale était visible. Elle pesait lourdement sur les transactions de toute nature. Chacun prenait ses mesures, et ce n'est qu'avec une prudence excessive, qui pouvait passer pour de la défiance, que les négociations s'entamaient même entre les maisons les mieux établies. Encore une fois, nous répéterons qu'une pareille crise, si inquiétante qu'elle fût, ne pouvait atteindre la maison Bonington et compagnie. Récemment encore, deux de leurs navires, venant de Calcutta, étaient arrivés à Liverpool avec des cargaisons qui s'étaient vendues dans des prix fort élevés. M. Bonington avait d'ailleurs prévu toutes les éventualités, et aucun désastre ne devait ni le compromettre, ni même l'ébranler. Dès le matin du 31, il avait revu ses exigences avec Samuel Hamden. La caisse regorgeait de banque-notes et il pouvait attendre tranquillement les événements. Vers midi, il sortit, laissant Samuel enfermé dans le bureau où il se tenait d'habitude. Ce bureau avait un aspect particulier. Il formait une sorte de carré oblong, figuré et défendu par un grillage solide, dans une vaste pièce complètement isolée et communiquant à l'aide d'une porte bardée de fer avec le cabinet même de M. Bonington. Quand ce dernier s'éloigna, Samuel était assis à un pupitre mobile et il mettait la dernière main à ses écritures. Monsieur Bonington monta dans sa voiture et se fit conduire à St. James Park. Sans être inquiet, Monsieur Bonington était soucieux. Une préoccupation évidente tourmentait son esprit, et c'est pour penser tout à son aise qu'il fuit à Lombard Street. En arrivant à St. James, il rencontra Monsieur Gusbrough, qui venait d'obtenir de l'administration des omnibus le chiffre exact des voyageurs transportés dans les 9000 rues de Londres pendant l'année écoulée. Il marcha rapidement à la rencontre de son ami. « Dieu pardonne !» s'écria-t-il. « Si je m'attendais à rencontrer quelqu'un à 7 heures dans ce soir, ce n'est pas à coup sûr le chef de la maison Bonington et compagnie. »« Et pourquoi donc ?» fit Monsieur Bonington. « Mais parce que nous sommes aujourd'hui au 31 décembre, et qu'à l'heure qu'il est, plus d'une maison qu'on croyait solide est en train de disparaître. »« Oh, Dieu merci !» repartit M. Bonington. « La situation n'a rien d'inquiétant pour nous, et personnellement, au contraire, j'ai vu arriver cette fin d'année avec une réelle satisfaction. »« Expliquez-moi cela. Bon, rien n'est plus simple, mon cher ami. »« Vous savez que je marie Miss Ophélia ?» entendu parler, avec le major Turner. Un homme honorable, oui, fils d'un père du royaume et d'un des officiers les plus distingués des 20 régiments qu'entretient la Compagnie des Indes. Ce mariage fait le bonheur de ma fille et il me permet de réaliser un projet que je nourris depuis longtemps. Et lequel ? Celui de quitter Londres. « Alors, est-ce donc bien décidé ?»« Je partirai dans un mois. »« Et vous irez ?»« À Calcutta. » M. Gusbrough regarda son interlocuteur avec une sorte de stupéfaction. « À Calcutta ?» répéta-t-il. « Vous m'aviez déjà parlé de ce projet, mais j'avoue que je n'y croyais pas. Au moins, n'y resterez-vous pas longtemps ?»« Je le sais. » Et vos enfants ? Le major Turner retourne dans l'Inde et il emmène naturellement sa femme avec lui. Quant à Lucie, ce voyage est une grande joie pour elle et elle partira sans laisser à Londres le moindre regret. Il y eut un court silence pendant lequel M. Gusbrough remua doucement la tête. Allô, dit-il enfin, je veux pas essayer de vous dissuader. L'Inde est d'ailleurs, au dire de naturalistes, un pays magique qui a le don d'attirer et de retenir les imprudents qui s'y aventurent. Mais vous me croirez si vous voulez, mon ami, vous ne semblez pas tout à fait libre en entreprenant ce voyage. Et vous avez raison, fit M. Bonington, car c'est le sentiment impérieux du devoir qui m'y rappelle. Comment cela ? Oh, c'est une histoire singulière. Tenez, un remords terrible qui depuis 20 années pèse sur mon cœur et ne me laisse pas un instant de repos. Vous m'avez jamais parlé de cela ? Oh, je cherchais à l'oublier moi-même. C'est donc grave ? Oh, plus que vous ne pensez. Oh, vous m'effrayez ! Monsieur Bonington sourit amèrement. Une heure, mon ami, reprit-il aussitôt, une heure d'oubli a suffi pour troubler à jamais mon existence. Écoutez, c'était à Calcutta, la veille de mon départ pour Londres. Le bateau était en rade, il n'attendait plus qu'un dernier chargement important pour s'éloigner, et moi, retenu par quelques amis, j'étais resté à terre où un banquet devait nous réunir et sceller nos adieux. Je voulais partir, cependant. J'avais comme un pressentiment de l'infamie de cette nuit. Et aujourd'hui, quand je me rappelle cette date fatale du 20 juin 1818, je me prends encore à frissonner et à avoir honte de moi-même. Le dîner s'était prolongé fort avant dans la nuit. Mes amis étaient tous plus jeunes et plus fous que moi. Les vins de France nous avaient versé l'ivresse à longs flots. Quand je sortis, je n'avais plus conscience de mon être. Cependant, en me retrouvant le matin sur le pont du navire qui fuyait vers la Grande-Bretagne, j'emportais le remords d'avoir commis une action indigne d'un homme d'honneur. Et n'avez-vous fait aucune démarche pour la réparer ? J'ai fait tout ce qui m'était humainement possible de faire, mais toutes mes recherches sont restées infructueuses. Et dans cet état, vous voulez y aller vous-même ?
Oui, certes.
Eh bien, je vous approuve, Boddington. Sans doute, moi, vous avez été coupable, puisque vous l'avouez vous-même. Mais Dieu, qui a vu votre repentir et vos remords, vous conduira peut-être enfin là où vous attendent le pardon et le repos. Comme ils en étaient là de leur conversation, ils virent venir à eux le major Turner, le visage pâle et les traits bouleversés. Monsieur Boddington se hâta d'aller à sa rencontre. « Qu'y a-t-il donc, major ? » lui dit-il en lui tendant la main. « Et pourquoi cet air triste et cette pâleur sur votre front ?» Le major jeta avant de répondre un regard singulier sur Monsieur Gusbrowth. « Je viens de Lombard Street, Monsieur Boddington, » dit-il alors. « Et c'est à grand-peine que j'ai pu savoir la direction que vous aviez prise. » J'avais à vous parler de choses importantes. Mais que se passe-t-il donc ? Ben, c'est à vous que je viens le demander. Ah, hâtez-vous, mon ami, car votre attitude commence à m'inquiéter. Le major eut un léger sourire singulier et jeta une seconde fois un regard soupçonneux sur M. Gusbrowth. Ce dernier s'en aperçut. « Oh, si je dois gêner votre conversation, commença-t-il. »« Vous, » interrompit Boddington avec vivacité, « mais ce ne peut être la pensée du major. Il sait que Gusbrowth de Piccadilly est mon meilleur ami et... »« Bon, puisqu'il en est ainsi, » poursuivit le major en s'inclinant, « j'arrive au fait. »« Voyons, voyons. » »« Lorsque j'ai eu l'honneur de vous demander la main de Miss Ophelia... » Je croyais avoir affaire à un homme d'une rigoureuse probité, et sur l'honneur duquel je pouvais compter comme sur celui de mes ancêtres. Eh bien, fit Boddington, dont les joues se colorèrent d'une légère rougeur. Eh bien, savez-vous ce que l'on dit à l'heure qu'il est dans la cité, sur la maison Boddington et compagnie ? Sur ma parole, monsieur Turner, je serais curieux de le savoir. On dit, monsieur, que depuis quelques mois, vous avez parfaitement pris vos mesures en vue de cette fin d'année, que vos préparatifs sont faits pour quitter l'Angleterre et passer sur le continent. Enfin, depuis ce matin, depuis une heure, toute la place a appris avec stupéfaction que la maison Boddington et compagnie avaient suspendu ses paiements. Monsieur Boddington devint livide.
Que dites-vous ?
Balbutia-t-il interdit. Oh, ce que vous ne pouvez ignorer, je pense. Vous me croyez donc capable d'une pareille action ?
Mais tout Londres le croit comme moi à cette heure.
Mais c'est une calomnie. Vous le prouverez difficilement. Monsieur Hampden était là, cependant. Le major haussa les épaules. Et sans doute, monsieur, puisque je l'ai vu moi-même, et que devant moi deux traites de 1000 livres chacune ont été refusées par lui, c'est impossible. J'étais présent. Mais c'est faux, vous dis-je. Monsieur Boddington.
Monsieur Boddington prit sa tête dans ses mains et pressa convulsivement son front auprès d'éclater.
Voyons, dit-il avec une fiévreuse exaltation. « Voyons, major Turner, Dieu merci, nous ne sommes plus des enfants et nous savons la valeur des mots. Eh bien, ce que vous affirmez est impossible.
Vous avez été abusé, vous vous êtes trompé vous-même. La maison Bonington et compagnie a dans sa caisse une somme 10 fois supérieure à celle qui lui était nécessaire, et il serait insensé de croire. Voulez-vous vous en assurer par vous-même ? Mais vous m'accompagnerez, je suis à vos ordres. Avec mon ami Gusbrough, nous irons tous les trois. Eh bien, ne perdons pas de temps. Ma voiture est près de la grille, en un quart d'heure, nous serons dans Lombard Street, partons. La voiture brûla le pavé et la distance fut franchie en quelques minutes. Dès qu'ils furent arrivés devant la maison de M. Bonington, ce dernier sauta le premier à terre et au moment d'entrer, il rencontra un garçon de recette de la banque qui sortait la sacoche vide sous le bras. « Monsieur Samuel, est-il à la caisse ?» demanda en passant M. Bonington à cet homme. Le garçon haussa les épaules. « Sans doute, votre honneur, » répondit-il brusquement. « Monsieur Hampton est bien à sa place, mais c'est la caisse qui n'est pas à la sienne. » Et il s'éloigna. M. Bonington s'était lancé dans l'escalier qui conduisait à son bureau. Ses deux compagnons avaient peine à le suivre. Ce qui se passait en ce moment dans son cœur serait bien difficile à dire. Une épouvante sans nom s'était emparée de son esprit. Ses tempes battaient avec force. Un nuage épais obscurcissait sa vue. Quand il atteignit son cabinet, il était pâle, effaré, hors de lui, et paraissait près d'être foudroyé par une attaque d'apoplexie. Il courut à la porte qui communiquait avec la caisse, et la secoua de ses deux bras vigoureux. Mais la porte était fermée en dedans et ne bougea pas. « Samuel » cria-t-il alors d'une voix éperdue et tremblante. « Samuel, c'est moi, ouvrez !» Le silence seul répondit à ce cri. Il se retourna morne vers le major et M. Gus. Son regard avait comme l'étrange fixité de la folie. « Il se passe ici quelque chose d'inouï, messieurs, » dit-il aussitôt, avec un calme affecté. « Mais le ciel a mesuré le courage aux épreuves que nous avons à subir. Oh, je serai fort jusqu'au bout. Messieurs, veuillez me suivre. » Ils firent le tour des bureaux, et quelques minutes après, ils arrivaient à cette vaste salle dont nous avons parlé, et dans laquelle avait été établi le bureau de M. Samuel Hampton. Samuel était assis à son pupitre, deux bougies brûlaient allumées près de lui. Il paraissait calme et écrivait. M. Bonington s'élança vers lui. « Enfin !» s'écria-t-il avec animation. « Enfin, je vous trouve, monsieur, et vous allez m'expliquer !» À la vue de son patron, Samuel s'était levé. Une légère pâleur couvrait son visage, mais son regard était ferme, et un sourire plein d'amertume va même un instant plisser le coin de ses lèvres. « Je vous attendais, monsieur, » répondit-il avec sang-froid, « mais seulement j'avais mes raisons pour ne pas vous ouvrir tout à l'heure. »« Mais c'est une infamie, peut-être. » « Vous ignorez donc ce que l'on dit à cette heure dans l'onde de la maison Bonington et compagnie ?»« Je le sais. » »« Cependant, ce matin, monsieur, la caisse était en mesure. »« Oh, elle l'est encore. » Et Samuel tira, en parlant ainsi, deux poignées de banknotes qu'il jeta négligemment sur son bureau. Monsieur Bonington adressa un regard triomphant au major. « Dans le premier moment, » poursuivit Samuel, « vous avez pu croire que votre caissier était un fripon et qu'il avait disparu en portant quelques 1000 livres sterling sur le continent. Cela pouvait être, en effet, mais ce vol ne m'eût pas enrichi, vous le savez bien. Et d'ailleurs, en disparaissant de la sorte, je n'aurais pas atteint le but que je me suis proposé. Mais quel but ? Balbutia M. Bonington en se rapprochant. M. Gusbrough et le major s'étaient rapprochés également, et ils écoutaient avec avidité. Cependant, Samuel avait repris les banquenotes, et sans même tourner son regard vers les trois personnages qui suivaient ses mouvements, il venait de les présenter de chaque main à la flamme des deux bougies. Les billets de banque prirent feu aussitôt. Monsieur Bonington poussa un cri de rage à cette vue et se cramponna furieux au guichet du bureau. « Misérable ! » cria-t-il en secouant rudement le grillage de fer qu'il essayait de briser. « Mais c'est ma fortune que vous détruisez !»« La vôtre et la mienne, monsieur Bonington. »« Mais c'est mon honneur à moi !»« Je le savais. » « Celui de mes enfants, de ma pauvre Lucie !» Samuel frémit à ce nom, lâcha une poignée de banquenotes et essuya son front baigné de sueur. « Je le savais !» répéta-t-il d'une voix plus sourde. Monsieur Bonington se tordait les bras de désespoir. « Mon Dieu ! Disait-il, mais cet homme est insensé !» Il n'a pitié ni de mes prières, ni de mes larmes. Je suis perdu, déshonoré. Oui, monsieur, déshonoré, interrompit Samuel d'un accent cruel. C'est une lâcheté. Non, une vengeance. Mais que vous ai-je donc fait, malheureux? Samuel remua lentement la tête. « Oh, rien, sans doute, » répondit-il en scandant ses paroles. « J'étais trop jeune alors. J'avais 5 ans à peine. Je ne comprenais même pas encore la honte et le déshonneur. Aussi, j'ai attendu. J'ai porté 10 années le poids de ce souvenir. J'ai appris à maudire votre nom. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu venger ma pauvre sœur. » Votre sœur. Souvenez-vous de Calcutta. Que dites-vous? Je dis, monsieur Bonington, que la dette du 20 juin 1818 est enfin payée et que de ce moment seulement nous sommes quittes. En parlant ainsi, Samuel alla tranquillement ouvrir la porte du cabinet de monsieur Bonington, mais à peine y fut-il entré qu'il recula, frappé de surprise. Miss Lucy était là, agenouillée, et le visage baigné de larmes. « Vous, Miss, vous !» s'écria Samuel éperdu. « Oui, monsieur, » répondit la jeune fille. « Et vous m'avez entendu? Oh, vous avez été bien cruel envers mon pauvre père. Si vous saviez, mais je sais tout. « Mais qui vous l'a dit? Votre sœur elle-même? Vous la connaissez ?» Lucie eut un sourire radieux à travers ses larmes. « Monsieur Samuel, répondit-elle doucement, vous n'étiez pas seul à vous rendre chaque soir dans le quartier de la flotte ?» Samuel n'en voulut pas entendre davantage. Il se laissa tomber à genoux devant la jolie enfant et lui prit vivement les mains. « Oh, pardon, pardon, Miss !» lui dit-il avec enthousiasme. « Je suis un malheureux et je ne méritais pas la bonté que vous me témoignez. Mais parlez, parlez, s'il est en mon pouvoir de racheter ma faute. »« Il est trop tard, maintenant, » dit Miss Lucy. « Vous avez rendu tout retour impossible. Mon père est déshonoré par vous. Tout Londres connaît et commande sa honte et qui sait même s'il pourra survivre. » Samuel ne répondit pas. Il comprenait trop bien la justesse de cette observation. Il pressa les mains de Lucie dans une dernière étreinte et se hâta de gagner sa chambre. On était au mois de juin 1839. Le soleil sortait étincelant de l'horizon et couvrait de lames d'or les plaines de Forbes et d'Aloès qui entourent la ville de Calcutta. Des myriades d'oiseaux, couleur de rubis, chantaient dans les bouquets de bananiers. Toute la nature enfin semblait s'éveiller amoureuse sous les fraîches caresses du jour. À 7 heures, une petite caravane de chasseurs partit de Calcutta et se dirigea vers une vieille ruine située à environ 3 milles de la ville. En tête s'avançaient 5 hommes à cheval, suivis à peu de distance par 2 jeunes femmes en élégants costumes d'Amazone. Immédiatement après marchaient 4 énormes éléphants de chasse conduits par leur mahout ou cornac. Arrivé à 1 mile de Calcutta, la petite caravane s'arrêta. Les éléphants s'agenouillèrent sur l'ordre de leur cornac, on leur appliqua des échelles le long de la carapace, et les chasseurs, à l'exception de 2, montèrent et s'assirent dans les houdars. Puis le jemidar donna le signal et l'on partit à travers la plaine. Les 2 chasseurs qui avaient dédaigné les éléphants s'étaient remis en route et, tout en causant, ils précédaient la caravane qui avançait lentement. « Savez-vous, Major Turner, dit tout à coup l'un d'eux à son compagnon, que plus je parcours les environs de la capitale du Bengale, plus j'admire la puissance de la Compagnie des Indes. Voyez plutôt ce qu'elle a pu faire en si peu de temps avec le seul aide de ses guinées de la nature. » « C'est vrai, répondit laconiquement le major. Vous avez à Calcutta, poursuivit son interlocuteur, des édifices qui le disputent en élégance au plus beau palais de Londres, qui est cependant la première cité du monde. La banque, l'hôtel des douanes, l'hôtel des monnaies, le palais du gouvernement, les immenses chantiers de Kidderpur, tout cela atteste la grandeur de la compagnie où je ne m'y connais pas, comme disent les Français. Et je ne parle pas encore du Fort Williams, qui est certes la plus belle citadelle qui soit dans l'Inde et même en Europe. Savez-vous bien, Major Turner, que le Fort Williams reçoit sur ses bastions 300 pièces d'artillerie, qu'il peut contenir 15 000 soldats et qu'il ne faudrait pas moins de 10 000 hommes pour le défendre. La compagnie a fait les choses comme il convient aux représentants d'une grande nation, et je sais par les statistiques les plus officielles que les dépenses occasionnées par le Fort Williams depuis qu'il existe atteignent le chiffre énorme de 2 millions de sterling. Le major Turner venait d'allumer un cigare. Il en présenta un à son interlocuteur. « Merci, répondit ce dernier. Le matin, à jeun, la fumée de cigare m'est insupportable, et si tous les gentlemen de Londres ne ressemblaient, les 1800 marchands de tabac que cette ville renferme seraient obligés de fermer boutique. » Il traversait en ce moment un champ semé de noyers, de cardamones et de girofliers. L'air était fortement imprégné des senteurs pénétrantes des arbres à épices, et la caravane pouvait s'avancer sans crainte que le gibier qu'elle voulait surprendre ne fût prévenu par les émanations humaines. Il s'agissait bel et bien d'une véritable chasse au tigre. La veille, on était venu avertir le major Turner que l'on avait découvert 3 tigres dans les environs, et ce dernier avait immédiatement ordonné une chasse pour le lendemain. Une chasse au tigre, comme les Anglais savent les faire, et comme Mary sait les décrire, oh, c'est une bonne fortune. On n'a point de pareils spectacles en Europe, et les habitants de Calcutta eux-mêmes en sont très fiers et très friands. La caravane se composait de personnages que le lecteur connaît en partie. En première ligne venait le major Turner, qui était retourné à Calcutta après avoir épousé Miss Ophelia Bonington. Il avait ensuite M. Bonington lui-même et 2 commis de la compagnie. Puis enfin, M. Gusbrough, l'honorable membre de la Société de statistiques. Quant aux 2 femmes, c'était Milady Turner, née Ophelia Bonington, et sa sœur, la jolie Miss Lucy. L'interlocuteur du major Turner, le dentaire l'a deviné sans doute, n'était autre que notre ami M. Gusbrough. Depuis 18 mois, il n'avait pas changé. C'était le même homme, petit, gros et court, et il continuait à Calcutta le même métier de statisticien qu'il exerçait à Londres. M. Bonington, lui, ne pouvait pas rester en Europe après le sinistre qui avait frappé sa maison, et il était venu se réfugier dans l'Inde, emportant de ce naufrage une fortune excessivement réduite, mais que son travail devait bientôt augmenter de nouveau. Dans les premiers moments, il voulut rendre au major Turner la parole que celui-ci lui avait donnée. Mais le major était un homme de principe, rigide, et il ne se crut pas dégagé par le malheur qui frappait la famille dans laquelle il devait entrer. Il tenait plus d'ailleurs à l'honorabilité de M. Bonington qu'à sa fortune. Il insista même pour que le mariage se fît dans les délais fixés d'abord. M. Gusbrough se sentit profondément touché d'un pareil trait de générosité, et après s'être fait donner une mission par la Société de statistique de Londres, il partit pour l'Inde avec ses amis. Quant à Samuel Hampton, on l'avait laissé fuir sans s'en inquiéter davantage. Il était parti, on ne savait pas ce qu'il était devenu, et jamais depuis on n'avait entendu parler de lui. Miss Lucy avait tout accepté avec une résignation angélique. Elle n'avait fait attendre aucune plainte, ni élevé aucune objection. Quand il fallut quitter Londres et partir pour des pays lointains, elle ne tourna pas une seule fois ses regards vers la ville qu'elle abandonnait. Nulle larme de regret n'avait mouillé ses joues. Elle monta sur le vaisseau d'un pas sûr et vit les côtes d'Angleterre s'évanouir et disparaître à l'horizon, sans qu'aucun déchirement se fît dans son cœur. On eût pu prendre facilement son impassibilité pour de l'indifférence. Elle resta calme, froide, insensible, et quand son père, effrayé de son attitude, lui demanda anxieusement si elle ne souffrait pas, si elle ne regrettait rien, elle secoua doucement la tête et essaya un sourire. « Non, répondit-elle sans effort, non, mon bon père, je ne souffre pas, je ne regrette rien. Maintenant, j'irai où vous voudrez bien me mener, je serai toujours heureuse d'habiter près de vous et avec vous. » Monsieur Bonington se contenta de cette réponse. Lucie était une enfant dévouée et soumise. Elle était si jeune encore, elle n'avait pas eu le temps de rêver une autre existence. Le père fut rassuré. Mais à partir de ce moment, la pauvre enfant se prit à pâlir, un cercle bleu se dessina autour de ses beaux yeux, désormais sans flamme, et une tristesse douce et calme se répandit sur son front. Depuis, Lucie était toujours restée la même. Le climat splendide de l'Inde, cette nature exubérante, les longues plaines qui s'étendent au loin comme d'immenses tapis de verdure, les larges ruisseaux d'eau vive, les jardins de balsamine et de pavots rouges, tout cela était impuissant à la distraire. Elle passait devant ces splendeurs éblouissantes, morne, taciturne et pâle. La science chercha vainement le mot de cette énigme. Lucie le cachait au plus profond de son cœur et personne ne l'y trouva. Cependant, la troupe venait de s'arrêter de nouveau. Elle se trouvait alors au pied d'une petite colline à pente douce, sur le versant opposé de laquelle s'élevaient les ruines qui servaient, croyait-on, de refuge aux tigres. Le Jemidar avait quitté les chasseurs, et quand il eut atteint le sommet de la colline, il se coucha à plat ventre et leur fit signe d'avancer. Un seul coup d'œil lui avait suffi. Il y avait là trois tigres, trois vrais tigres du Bengale. Les ruines provenaient d'une vieille pagode depuis longtemps abandonnée. Les figuiers sauvages y poussaient en toute liberté et des plantes parasites pendaient dans les fentes des murailles à demi usées par le temps. Les tigres dormaient, paresseusement allongés à l'ombre des massifs, le mufle dans les pattes et l'oreille pendante. Les quatre éléphants choisirent leur position de combat avec toutes les précautions usitées en pareil cas, et quand les tigres se réveillèrent, les chasseurs armaient leurs carabines et la bataille pouvait commencer. Le réveil fut terrible. M. Bonington avait pris place dans un howdah à côté de Lucy. Le major était monté près de Milady Turner. Quant à M. Gusbrough et aux deux comités de la compagnie, ils s'étaient partagés les deux autres éléphants. Les trois tigres s'étaient levés d'un seul bond et trois cris rauques venaient d'ébranler les ruines. Le soleil était alors tout à fait sorti de l'horizon. Ses rayons, en tombant obliquement sur le pelage des monstres irrités, en faisaient chatoyer les vives couleurs. Ce fut un spectacle inouï dont les chasses européennes ne sauraient offrir d'équivalent. Les trois bêtes fauves s'élancèrent de leur retraite et le regard fulgurant, le mufle contracté, la queue agitée d'ondulations menaçantes, elles se présentèrent sans défense à leurs redoutables ennemis. Il y eut une seconde de silence solennel. Hommes et monstres échangèrent un regard suprême, puis les détonations éclatèrent et un nuage de fumée enveloppa un moment les assaillants. M. Bonington et les deux commis de la compagnie avaient seuls tiré. M. Gus s'était contenté de regarder. Quant au major, il tenait sa carabine chargée et attendait une occasion favorable. Oh, ne se fit pas longtemps attendre. Dès que la fumée se fut dissipée et que l'on put apercevoir de nouveau les ruines de la vieille pagode, deux tigres seulement étaient debout. Le troisième se roulait à leurs pieds dans les dernières convulsions de l'agonie. Le temps d'arrêt fut court. Déjà, les chasseurs s'étaient armés de carabines chargées et le combat allait recommencer de plus belle. Mais, soit que les tigres eussent compris le désavantage de leur position, soit que la mort de leurs compagnons leur eût inspiré une ardeur nouvelle, sans donner à leurs adversaires le loisir de les mettre en joue, ils s'élancèrent à travers l'espace en dirigeant leurs bonds vers les éléphants. Le premier était le plus vieux, le plus courageux, le plus irrité. Une balle l'avait blessé au flanc et son sang coulait en abondance. Il voulait une vengeance mémorable, et il alla tomber sur l'éléphant qui portait le major et Milady Turner. Mais avant qu'il eût décrit sa courbe dans l'air, le major l'avait ajusté, et l'animal, frappé cette fois en pleine poitrine, tombait avec des mugissements terribles sur les ruines même de la pagode. Son compagnon fut plus heureux. C'était le plus jeune, le plus beau, le plus fier. Avant de prendre son élan et de choisir sa victime, il exécuta à droite et à gauche des bonds d'une hardiesse inouïe. Il allait et venait, ouvrant ses narines, montrant ses dents fines, lançant des regards qui ressemblaient à des éclairs. Les chasseurs oubliaient le danger pour le suivre dans ses évolutions pleines de souplesse, et pendant quelques secondes, on eût pu croire que l'on assistait au spectacle inoffensif de quelque arène civilisée. Tout à coup, cependant, le monstre s'arrêta. Toute la peau de son mufle était contractée et se retirait des narines au front. Il ne poussa qu'un rugissement, un seul, et les chasseurs en frissonnèrent comme au contact d'une griffe invisible. Le monstre avait bondi, et pendant que les regards éblouis le cherchaient encore à la place qu'il occupait, il se ruait en tourbillonnant vers l'éléphant où Lucie, mourante de peur, s'agenouillait auprès de son père. 10 coups de feu retentirent inutilement. Le tigre passa rapide au milieu des balles, arriva sans avoir été atteint, sur le houla où se trouvaient M. Bonington et sa fille. Il n'en fallait pas tant pour jeter l'épouvante dans le cœur de tous les spectateurs et le désordre dans leurs rangs. 20 cris de terreur s'élevèrent à la fois, et le gémidard, suivi de quelques hommes, se précipita éperdu vers le tigre. En ce moment, M. Bonington, renversé par la chute du monstre, venait de tomber, blessé et sanglant, au milieu des chasseurs accourus. Miss Lucy était restée évanouie dans le houda. L'anxiété fut profonde pendant quelques instants. Milady Turner jetait des cris perçants, tandis que le major, debout sur son éléphant et la carabine armée, attendait que le tigre se découvrît pour lui envoyer une balle. 20 fusils étaient braqués dans la même direction, mais nul n'osait faire feu de peur qu'un projectile maladroit n'allât frapper la pauvre Lucy. Cette situation ne dura qu'une minute, peut-être, mais une minute qui parut à tous longue comme un siècle. Cependant, et par un bonheur inouï, le tigre, étonné de se trouver au milieu de ses adversaires silencieux, et craignant sans doute quelque piège, promenait ses regards provocants sur tout ce qui l'entourait. Miss Lucy était étendue sans connaissance dans le houda, et le moindre soupir, le plus léger mouvement, on devait la perdre. Un silence effrayant régnait de toutes parts. L'on n'entendait plus à cette heure que le souffle enflammé du monstre. Tout à coup, l'animal exécuta un bond et se retourna sur lui-même. Un incident, aussi singulier qu'inattendu, avait détourné son attention. Un homme que nul des chasseurs ne connaissait et que l'on n'avait point encore vu jusqu'alors venait de se cramponner à la trompe de l'éléphant docile et, armé d'un long couteau de chasse, la ceinture garnie d'une paire de pistolets, il s'avançait hardiment en cherchant à attirer de son côté toute l'attention du tigre. Nous venons de voir qu'il avait réussi. Chacun respira. Cet homme jouait sa vie à un jeu où il devait certainement perdre. Mais la diversion qu'il imaginait allait sauver Miss Lucy et des applaudissements frénétiques partirent de tous les points. L'inconnu n'y prit pas garde et continua d'avancer. Le monstre mugissait, labourant la carapace de l'éléphant de ses griffes irritées. Une colère sanglante allumait ses regards. Il était redevenu plus terrible et plus menaçant encore. En ce moment, son adversaire plaça son couteau entre ses dents, tira ses deux pistolets de sa ceinture et en lâcha aussitôt la détente. Les deux coups de feu furent suivis d'un dernier mugissement et le tigre, bondissant sur son ennemi, alla tomber en l'emportant entre ses griffes à 20 pas du gémidard et des hauts sabots effrayés. Il y eut alors un mouvement unanime parmi tous les chasseurs, et chacun se précipita à l'envi vers l'endroit où allait se dénouer le drame. M. Gusbrough s'était rapproché de M. Bonington, dont la joie serait à peine se décrire, et les deux amis se tenaient étroitement embrassés. « Lucy, ma pauvre Lucy, disait le père, Dieu me la rend, Dieu soit béni. » sans doute, répartit M. Gusbrough, et c'est un grand bonheur qu'un homme va peut-être en ce moment payer de sa vie. Croyez-vous? Oh, c'est probable. Mais quel est donc cet homme? M. Gusbrough secoua tristement la tête. Cet homme, répondit-il, votre désespoir et votre trouble vous ont empêché de le reconnaître tout à l'heure. Mais moi, mon ami, je n'ai pas pu m'y tromper une seconde. Mais quel est-il? Bon, c'est un triste souvenir. Il a indignement abusé de votre confiance Il vous a forcé à venir chercher à Calcutta une fortune que vous aviez laborieusement édifiée à Londres.
Samuel ?
Interrompit M. Bonington. Lui-même, répondit M. Gosbrowth.
Est-ce possible ?
Oui, mon pauvre ami. M. Hobden rachète aujourd'hui noblement la faute qu'il a commise et le chagrin qu'il vous a causé. Certes, la vie de notre chère Lucie vaut bien les banknotes qu'il a brûlées dans la capitale des trois royaumes.
M. Bonington ne répondit pas tout de suite. Il prit la main de M. Gosbrowth et la serra un moment silencieusement dans les siennes.
« Le doigt de Dieu est dans tout ceci, » dit-il enfin, d'une voix émue. « Et le retour de Samuel m'explique bien les mystères dont la cause était restée ignorée pour moi jusqu'à ce jour. » « Oui, mon ami, cet homme m'a causé le plus cruel chagrin que j'ai éprouvé de ma vie. Mais j'avais commis une faute moi-même, et ce n'était là que le juste châtiment que j'avais mérité. » J'avais offensé Dieu et Dieu m'a puni. Mais le bonheur que j'éprouve en ce moment rachète le passé tout entier. Et je suis doublement heureux de le devoir à Samuel. Prions donc le ciel, mon ami, pour qu'aucune douleur ne vienne troubler la joie de cette journée. En ce moment, une grande clameur s'éleva du sein des chasseurs, groupés autour du tigre, et des hurrahs vinrent annoncer à M. Bonington et à M. Gosbrowth, que Samuel Hobden était sorti victorieux de sa lutte avec le monstre. Quelques hauts hameaux étaient montés sur l'éléphant où se trouvait Miss Lucy, et il venait de descendre la jeune fille, quand les hurrahs se firent entendre. Comme on touchait le sol, Miss Lucy sortit enfin de son évanouissement. Elle n'avait rien vu, rien entendu de ce drame sauvage, et quand elle rouvrit les yeux, la première personne que son regard rencontra fut Samuel Hobden. Elle poussa un cri de terreur et se tourna vers son père. Samuel était fort pâle, le sang coulait abondamment d'une blessure que lui avait faite le tigre, et Miss Lucy crut à un plus grand malheur. « Samuel, dit-elle d'une voix étouffée à son père, qui la couvrait de baisers. Samuel blessé mortellement ? C'est lui qui t'a sauvé, mon enfant, interrompit M. Bonington. Mais en exposant ses jours, Dieu le protégeait.
Il va mourir, peut-être.
M. Bonington sourit doucement et pressa sa fille contre son cœur. « Non, mon enfant, dit-il, Samuel ne mourra pas, car maintenant le passé est oublié et l'avenir peut être encore heureux. »«
Que voulez-vous dire ?»«
Je dis, répondit le père, que tout m'est expliqué dès aujourd'hui et que je ne veux plus que ma Lucie soit pâle et triste comme par le passé. » Demain, mon enfant, j'irai trouver M. Hobden. Et qui sait, oh, si tu t'y opposes pas, peut-être pourrais-je me l'attacher par des liens plus doux que ceux de la reconnaissance et de l'amitié. Une subite rougeur colora ces mots les joues de la charmante enfant et elle cacha sa tête sur la poitrine de son père. Qu'a-t-il besoin d'ajouter à ce qui précède ? Samuel avait perdu sa sœur peu de temps après la catastrophe de Lombard Street. Il s'était retrouvé alors seul au monde, sombre, triste, désespéré. Quoi qu'il eût fait pour étouffer ce sentiment dans son cœur, il aimait Miss Lucy avec tout l'oubli d'une âme ardente et jeune. Il savait que M. Bonington était parti pour Calcutta avec sa fille. Une sorte d'instinct plus fort que sa volonté le poussa vers l'Inde, et il y arriva presque en même temps que celle qu'il aimait, Le lecteur sait le reste. Sans s'être jamais fait remarquer, il quittait rarement les traces de Lucie. Il la suivait partout, caché avec soin à tous les regards, heureux seulement de l'avoir passée et d'entendre parfois le son aimé de sa voix. C'est ainsi qu'il s'était trouvé près des ruines de la vieille pagode. Environ 6 mois après cet incident, Samuel Hampden épousait Miss Lucy Bonington, et à partir de ce moment, rien ne vint plus troubler leur bonheur. Aujourd'hui encore, ils habitent l'Inde, et Gus Brown, qui fait de temps à autre des excursions pour le compte de la Société de statistiques, prétend que dans les 64 595 maisons ou cabanes de Calcutta, on chercherait en vain un ménage plus heureux.